Bonjour. Alors, c'est aussi aujourd'hui la fête des illuminations à Lyon et dans notre région, mais ce n'est pas pour cela qu'il y a deux bougies. Autrement, il y en aurait sans doute partout aux fenêtres, mais ça n'a rien à voir. C'est pourquoi j'ai pensé qu'on pourrait ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc et voir ce que Marie, puisque le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. On verra tout à l'heure ce que ce mot étrange veut dire, parce que souvent on le confond avec un autre mot. Et nous verrons donc ce que Marie dit après l'annonce de la naissance de Jésus qu'elle vient de recevoir de l'ange Gabriel. Donc Luc, chapitre 1er, nous lisons des versets 39 à 56, et je lis dans la Bible second 21, et le texte se trouve à la page 660. À la même époque, c'est-à-dire à l'époque où Marie a appris cette nouvelle qu'elle allait être enceinte, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Alors Zacharie, c'était le prêtre, même le grand prêtre qui était en fonction dans le temple de Jérusalem. Et certains ont constaté que l'évangile de Luc commence dans le temple avec Zacharie, hein, et se termine aussi dans le temple, puisque le dernier verset de l'évangile de Luc, c'est « Ils étaient tous les jours dans le temple et ils louaient Dieu ». Zacharie et sa femme Élisabeth, les futurs parents de Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiste. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, puisqu'elle était enceinte de Jean-Baptiste, ils avaient à peu près 6 mois d'écart, hein, entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» La mère de mon Seigneur. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour avoir cette illumination intérieure, la mère de mon Seigneur, autrement dit, la mère de mon Dieu, car le Seigneur, pour Élisabeth, c'était Dieu. C'est ainsi que les Juifs appelaient Dieu à son époque, la mère de Dieu, la mère de mon Seigneur. Combien cette expression a fait couler beaucoup d'encre après le concile de Constantinople en l'an 400, etc. Parce que certains disaient, mais non, Marie n'est pas la mère de Dieu, Dieu ne peut pas avoir de mère. Élisabeth, curieusement, utilise cette même expression. Je continue la lecture. En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Marie dit, et c'est maintenant ce que j'appelle la première prédication évangélique du Nouveau Testament et de l'évangile de Luc. Car Marie, ici, commente cette nouvelle qu'elle a reçue et se sert de textes de l'Ancien Testament pour le faire. Et elle dit la parole de Dieu. Alors c'est vrai, elle le dit à Élisabeth, mais elle le dit au monde entier. La preuve, c'est qu'elle nous le dit ce matin. C'est ce qu'on appelle le Magnificat, parce qu'en latin, ça commence par ce mot Magnificat, c'est-à-dire « je magnifie le Seigneur ». Marie dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais, toutes les générations me diront heureuse ou bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches, les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Marie venait juste d'être enceinte, Élisabeth était probablement dans son 7e mois. Marie. Dans la littérature chrétienne de la première moitié du 2e siècle, donc juste après la période apostolique, règne un silence quasi complet au sujet de la Vierge Marie. On n'en parle pas. On en discute. C'est une opinion discutée notamment chez Clément d'Alexandrie, qui est mort en 220. Et pendant les 3 premiers siècles du christianisme, la position de Marie est moins importante que celle des martyrs, dont la vénération est déjà attestée par le martyr de Polycarpe vers la moitié du 2e siècle. Polycarpe était disciple de l'apôtre Jean. Et Irénée, qui a été évêque à Lyon à la fin du 2e siècle, a été disciple de Polycarpe. Alors, on ne saurait établir avec certitude la date de l'origine du culte marial, du culte à Marie. Peut-être à la fin du 4e siècle, sûrement au début du 5e, dans certaines églises d'Orient et d'Occident, on commence à honorer Marie d'un culte public par une fête spéciale. Alors, le titre de Théotokos, c'est-à-dire celle qui enfante de Dieu, c'est la mère de Dieu, celle qui enfante Dieu, terme qu'on trouve au concile d'Éphèse et non pas de Constantinople, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 431. C'est autour de ce thème que se développent les plus vives et virulentes disputes christologiques autour du Christ, autour de la signification du Christ. Le 8 décembre 1854, Pie XI, le pape, siégeant solennellement, définit, et là je cite, « la doctrine suivant laquelle la très bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception préservée de toute tâche de péché originel et que c'est une doctrine révélée de Dieu qui par conséquent doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. » 1854, c'est assez récent ou assez tardif au regard de l'histoire de l'Église. Alors, c'est vrai, nous nous dissocions de la foi de l'Église catholique sur 4 points concernant Marie. Le premier point, c'est le culte qui lui est apporté, même si l'Église catholique se défend de le mettre sur le même plan que le culte célébré à Dieu. La théologie catholique fait la différence entre le culte de l'atrie qui est apporté à Dieu et le culte du lit qui est apporté à la Vierge Marie et aux saints. Nous n'apportons pas de culte à Marie, nous apportons un culte à Dieu, un Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis nous nous dissocions aussi sur la virginité perpétuelle de Marie. Pour nous, Marie était vierge, effectivement, c'est-à-dire qu'elle n'a couché avec aucun homme pour mettre au monde Jésus. Mais ensuite, elle a eu d'autres enfants, enfants dont parle le Nouveau Testament. Et curieusement, elle n'a pas été toujours vierge, puisque Jésus a dû avoir 7 ou 8 frères et sœurs. Et puis, nous nous dissocions aussi sur son Immaculée Conception. Alors, l'Immaculée Conception, ça veut dire que Marie a été toujours exempte de péché. Elle ne participe pas au péché originel. Tous les hommes sont pécheurs parce que Adam avait péché, mais tous les hommes commettent des péchés. L'Église catholique dit que Marie en est exclue. Nous pensons qu'il n'y a aucune raison d'exclure Marie. Jésus, oui. D'ailleurs, la Bible l'atteste, alors que la Bible n'atteste pas que Marie est sans péché. On verra tout à l'heure que c'est même le contraire. Mais Jésus seul est sans péché. Et puis, dernier point, son Assomption, fêtée le 15 août, dogme promulgué par le pape Pie XII en 1950. Point besoin de faire monter Marie au ciel. Elle est dans la gloire de Dieu avec tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire auprès du Seigneur. Le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception, mais c'est aussi la fête des Lumières à Lyon. Et la ville de Lyon vénère la Vierge Marie depuis le Moyen-Âge et elle s'est mise sous sa protection. En 1643, Internet, c'est très utile. Année où le sud de la France, là, j'ai fait un copier-coller. Là où le sud de la France était touché par la peste, les échevins de Lyon, le prévôt des marchands et les notables firent alors vœu de rendre hommage chaque année à la Vierge si l'épidémie de peste cessait. Et l'épidémie de peste a cessé. Depuis, un cortège solennel municipal se rend à la basilique Notre-Dame de Fourvière depuis la cathédrale Saint-Jean chaque 8 septembre, et non le 8 décembre, jour de consécration de la ville à la Vierge, pour lui offrir cierge et écu d'or. Il s'agit du vœu des échevins. Et il est curieux que cette tradition perdure alors que notre État laïque est si frileux sur les signes religieux ostentatoires. Alors les Lyonnais fêtent le 8 décembre pour célébrer la statue en or posée sur une tour de la basilique de Fourvière un 8 septembre. Mais la pluie empêcha cet événement le 8 septembre qui a été reporté à la date du 8 décembre. Malheureusement, il a aussi plu le 8 décembre, mais ils n'ont pas voulu le reporter indéfiniment, d'où ce 8 décembre pour la fête des Lumières. Mais revenons à notre Magnificat. Juste après avoir eu la nouvelle de la naissance de Jésus, Marie se rend donc chez Zacharie et Élisabeth. Et on peut noter, je le répète, qu'Élisabeth n'hésite pas à appeler Marie la mère de son Seigneur, autrement dit la mère de son Dieu. Jean-Sébastien Bach a fait de ce Magnificat une œuvre lyrique magistrale pour chœur à cinq voix et orchestre en 1733 et à Leipzig. Et c'est dans cette ville, en fait, que est né un peu le commencement de l'insurrection des Allemands de l'Est qui aboutit à la chute du mur de Berlin à Leipzig. Et c'est à Leipzig qu'avec Jean-Sébastien Bach, on chantait le Magnificat de Luther dans sa version traduite en allemand aux vêpres du samedi et du dimanche, c'est-à-dire à la rencontre de prières du samedi et du dimanche soir. Combien j'aurais voulu être là à Leipzig à partir de 1733. Mais que les musiciens se rassurent, j'apprécie beaucoup aussi leur musique et leur chant. Marie magnifie, exalte le Seigneur. Et ces paroles m'inspirent plusieurs remarques. Tout d'abord, c'est de Marie que vient cette première prédication évangélique, car elle nous dit la parole de Dieu. Prêcher, c'est prophétiser, c'est-à-dire parler aux hommes, dit l'apôtre Paul, les édifier, les exhorter, les consoler. Et c'est cette humble femme, probablement une jeune fille du peuple, c'est d'elle que nous avons tout un développement théologique sur le sens de la future venue au monde de Jésus. Que dit Marie ? Elle dit que Dieu l'a remarquée, qu'il l'a choisie et qu'elle s'en réjouit. Et on peut remarquer ici le parallélisme ou la synonymie, c'est synonyme, entre mon âme et mon esprit. Et quand elle dit « mon âme exalte le Seigneur » ou « se réjouit en Dieu » et « mon esprit se réjouit en lui », c'est une façon hébraïque, hein, juive, hein, de la façon de cette époque, de dire « je ». Il y a un psaume, le psaume 103, qui dit « mon âme bénit le Seigneur ». Et toute ma vie, je me souviendrai d'une ancienne membre de notre Église, décédée depuis plusieurs décennies, Madame Large, qui commençait toujours ses prières par ce mot « mon âme bénit le Seigneur ». Eh bien, on pourrait traduire très simplement, ce serait même peut-être plus juste, parce qu'on ne s'exprime pas comme ça aujourd'hui, ce serait plus juste de dire « je bénis le Seigneur ». Je bénis le Seigneur. Luther, dans son commentaire de ce Magnificat, qui est magnifique, il l'écrit à son Altesse Sérénissime de haute naissance, le prince et seigneur Messire Jean-Frédéric, duc de Saxe, son gracieux seigneur et maître, en 1521. Et il lui dit que le Seigneur, que Dieu, je cite, qui est un seigneur, qui a pour unique préoccupation d'élever ce qui est bas, d'abaisser ce qui est élevé, bref, de briser ce qui est fait et de refaire ce qui est brisé. Et c'est vrai, c'est ainsi que Dieu travaille. Et c'est le message que Dieu avait donné au prophète Jérémie. Il lui avait dit, chapitre 1er, il l'envoie pour abattre et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Et avant de bâtir et de planter, dans ce monde de péché où nous sommes, il faut détruire. Et cela me fait penser à cet homme dont on parle beaucoup sur la terre entière aujourd'hui, Nelson Mandela. Voilà un homme qui a été élevé dans une église protestante, qui dans son enfance a fait profession de foi, qui a enseigné, je ne sais pas si c'est les jeunes, les enfants, dans son église quand il était jeune, et qui d'une certaine façon a fait ce qui à vue humaine était impossible, permettre que les Noirs et les Blancs d'Afrique du Sud vivent ensemble et non pas dans des ghettos séparés. Et il l'a fait par son courage, je pense par la force de Dieu aussi, il l'a fait en renversant ce qui était injuste pour mettre en place ce qui plaisait à Dieu. Car Dieu ne veut certainement pas que nous fassions des différences à la couleur de notre peau ou aux différences que sont les nôtres, mais au contraire que nous sachions voir dans les personnes qui nous entourent des créatures de Dieu, des frères et des sœurs en humanité. Pour Luther qui écrit au prince de Saxe, cela veut dire que personne ne doit s'attribuer l'honneur comme quelque chose qui lui revient, ni le garder pour lui, mais le sanctifier et le reporter à Dieu qui en est le possesseur. Humilité, bassesse ne veulent pas dire ignorance ou bêtise, même si, comme disait ma belle-mère, ma deuxième belle-mère, pour ceux qui l'ont connue, la bêtise est la chose la mieux partagée au monde. Marie connaissait les Écritures. Ses paroles sont remplies de réminiscences bibliques. Elle connaissait la Bible. Elle n'avait sans doute pas un livre qui s'appelait E100. Elle n'avait sans doute pas non plus de Bible personnelle. Elle avait probablement accès à une seule traduction, enfin une seule version. Ça se trouvait probablement dans la synagogue de Nazareth où elle avait appris à lire. Mais elle connaissait son Dieu, le Dieu qui s'était révélé à son peuple. Elle était nourrie de la parole de Dieu. Et malgré son humble condition, elle a été l'objet de la faveur divine. Combien il est important de connaître la parole de Dieu, d'en être nourri. Connaissez-vous la Bible au point de l'habiter comme une demeure dans laquelle on se sent bien? Et pour Luther, Marie ne peut magnifier le Seigneur que par le Saint-Esprit. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Si nous croyons que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, à plus forte raison, ses auteurs ont-ils été conduits par le Saint-Esprit? Et ici, Luc rapporte les paroles prononcées par Marie. Il fait un copier-coller. Il introduit dans son texte un texte de Marie, mot pour mot. Et Luther ajoute, ce n'est point une œuvre humaine de louer Dieu avec joie. C'est uniquement l'œuvre de Dieu. Aucune parole ne peut l'enseigner. Seule l'expérience personnelle permet de la connaître. L'expérience avec Dieu par le Saint-Esprit. Alors voyons deuxièmement de quelle théologie Marie se nourrit. Dieu est le puissant. Il est grand. Il fait pour elle de grandes choses. Elle a conscience d'être l'objet de la faveur de Dieu. Mais ces grandes choses, elle les rapporte à la bonté de Dieu, à sa grandeur, qui s'est manifestée au fil du temps pour son peuple fidèle. Dieu est le Seigneur. Oui, notre Dieu est un Dieu grand. Et nous n'avons pas le droit de désespérer de notre Dieu. Que ce soit pour nous personnellement, pour d'autres pour qui nous prions, pour notre Église, pour l'œuvre de Dieu dans le monde, Dieu nous étonne. Et Dieu nous a étonnés avec la chute du mur de Berlin. C'était impensable. Il nous a étonnés avec la chute de cet autre mur en Afrique du Sud. C'était impensable. Comme il peut nous étonner par des choses extraordinairement grandes qu'il peut accomplir dans notre vie en réponse à notre prière. Dieu est le Seigneur. Et puis il est son sauveur. Elle dit qu'il est son sauveur. Avait-elle donc besoin d'un sauveur? Jésus n'avait pas besoin d'un sauveur. Il n'avait pas besoin de se sauver lui-même. Il était sans péché. Il était Dieu. Marie dit qu'elle a besoin d'un sauveur. Si elle était l'Immaculée Conception, c'est-à-dire conçue sans péché, pourquoi aurait-elle eu besoin d'un sauveur? Alors c'est vrai que le salut ici dépasse largement, comme notre salut aussi d'ailleurs, dépasse largement sa personne. Le mot « salut » implique un salut complet à la fin des temps, c'est-à-dire une délivrance du péché. Il n'y aura plus de péché dans le monde que Dieu va instaurer. Il n'y aura plus d'oppression. Il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance, dit l'Apocalypse. Ce mot « salut » dans la Bible a un sens beaucoup plus large qu'on lui donne habituellement. Le grand dictionnaire de la Bible dit ceci, sous le mot « salut », tout ce que nous pouvons connaître à présent du salut n'est qu'un préliminaire et un avant-goût de la plénitude à venir, la réalisation du royaume au moment de la parousie, c'est-à-dire de la venue de Jésus. Oui, Marie voit que Dieu est en train d'accomplir ses promesses, qu'après ce long temps d'attente, après la parole des prophètes, Dieu va agir et Dieu l'utilise pour agir. Mais Marie a conscience de participer à ce salut et d'être aussi elle-même, d'avoir besoin d'être sauvée. Être sans péché, c'est être saint. Et pour Marie, Dieu seul est saint. C'est ce qu'elle dit. Et elle dit aussi que la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge, c'est-à-dire de génération en génération. Ce mot qu'elle utilise ici est un mot qu'on trouve fréquemment dans l'Ancien Testament. C'est la compassion, la bonté, la bienveillance. Et Dieu dit dans Exode chapitre 20 verset 6 par la bouche de Moïse que cette bienveillance de Dieu s'étend jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. Je vous l'ai déjà dit, je crois. 1000 générations, si on veut être le moins large possible, le plus étroit possible, disons qu'une génération, c'est 20 ans. Eh bien, 1000 générations, c'est 20 000 ans. Et si une génération, c'est 40 ans, 1000 générations, c'est 40 000 ans. Alors, depuis que Moïse a prononcé ces paroles, 3500 ans se sont écoulés. On est loin du compte. Donc, il reste encore 16 500 ans. Ça laisse du temps pour le retour du Seigneur et pour la miséricorde, la bonté, la bienveillance de gens, de Dieu parmi les gens, parmi les hommes de notre monde. Troisièmement, Marie fait référence à l'alliance éternelle promise à Abraham. « J'établirai mon alliance avec toi et à ta descendance après toi, dans toutes leurs générations. » Et nous en sommes au bénéfice. Nous faisons partie de ce peuple issu d'Abraham par la foi. Et elle dit « pour toujours ». C'est la promesse du salut en Jésus-Christ qu'évoque Marie. C'est de l'espérance d'Israël et du monde entier dont il est question ici. On me dira « heureuse » ou « bienheureuse ». Luther ajoute dans son commentaire « note bien ces termes ». Il tutoie hein, le prince de Saxe, hein, qu'il appelle son seigneur, hein, mais peut-être qu'à cette époque, c'était comme ça qu'on faisait. Hein. « Note bien ces termes. Elle ne dit pas qu'on dira beaucoup du bien d'elle, qu'on célébrera sa vertu, qu'on exaltera sa virginité ou son humilité, ni qu'on chantera quelques chansons sur ce qu'elle a fait. Non, c'est seulement à cause du regard que Dieu a jeté sur elle qu'on la dira bienheureuse. C'est vraiment là rendre honneur à Dieu si purement qu'on ne pourrait le faire plus purement. C'est à Dieu qu'elle rend gloire, et c'est à Dieu qu'il faut rendre à gloire, et non à Marie. Et nous aussi, nous pouvons nous considérer comme heureux, bienheureux, il n'y a pas que Marie. Nous aussi, nous avons été choisis par le Seigneur pour être sauvés. En nous aussi, Dieu a fait sa demeure, pas de façon charnelle, de façon spirituelle. Le Saint-Esprit habite notre corps. Pour nous aussi, Dieu a fait de grandes choses, éternellement grandes, au-delà de toute espérance, bien au-delà de la durée de notre pauvre existence. Et nous aussi, nous prêchons un message plein d'espérance. Et nous attendons ce jour glorieux où le Seigneur établira son royaume éternel. Marie, c'est le précurseur de ce que le Seigneur a fait et fera pour chacun de ses enfants. Et c'est en ce sens, et non en lui offrant un culte, que nous la disons bienheureuse. Et avec elle, nous louons et nous magnifions le Seigneur. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour tant de richesses que contient ta parole. Merci pour ces paroles de Marie qui nous exhortent, qui nous font du bien, qui nous permettent de regarder au-delà de notre pauvre existence, car le salut que tu nous as acquis est un salut éternel. Permets qu'en cette période de Noël, nous sachions nous en réjouir, te louer pour tout ce que tu as fait pour nous, et partager autour de nous cette immense nouvelle que tu es venu pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous donner une espérance et pour établir ta justice. Merci Seigneur de nous avoir choisis et d'avoir fait de nous tes enfants. Gloire te soit rendue. Amen. Amen.